Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Many Days. Salut Many.
Salut, ça va ?
Ça va et toi ?
Tranquille.
Bienvenue dans BPM.
Merci.
Many, tu es producteur, tu as composé pour de très nombreux artistes. On te retrouve au crédit de disques ou de morceaux de La Craps, Swift Gad, Limsa Dolnay, Lucio Bukowski, Caballero et Jean Jass, Zixo, Paco et des dizaines d'autres. Et ce novembre, tu produis intégralement le premier album du rappeur lyonnais Okis qui s'appelle Rêve d'un rouilleur. Alors pour l'anecdote, dans l'émission précédente à celle qui est diffusée aujourd'hui avec toi, et c'est vraiment un pur hasard, l'invité de BPM c'était Johnny Ola, qui est producteur notamment pour Jazzy Bass, du Gold Chain Studio, etc. Et il nous a raconté, tu faisais partie de ses inspirations dans le beatmaking à ses débuts. Donc je trouve le timing intéressant en fait de l'avoir eu la dernière fois et de nous avoir parlé de toi et qu'aujourd'hui on t'a aujourd'hui ici.
Bah lourd, hein, merci à lui. Ça tue.
Alors avant de parler de ton parcours discographique, j'aimerais qu'on parle d'abord de ton parcours d'auditeur. C'est quoi tes premiers souvenirs liés à la musique ?
Mes premiers souvenirs liés à la musique, c'est en fait, j'écoutais les musiques de mes parents, et surtout, en vrai, j'ai une grande sœur, tu vois, qui a 8 ans de plus, et en fait, elle avait un coup d'avance puisqu'elle était plus vieille. Mm-hmm.
Qu'on comprenne, c'est dans quelles années, là, à peu près ?
Bah, moi, je suis de 1982.
Ok.
Et en fait, quand le rap est arrivé, elle se l'est pris aussi, tu vois. C'est-à-dire, elle écoutait plus des trucs genre Aerosmith, Guns N' Roses, tu vois, des trucs comme ça, Nirvana et tout.
Donc le rock des années 80
ouais,
et 90, quoi.
Mais quand le rap est arrivé, elle a commencé à se prendre les premiers trucs, tu vois. Surtout, elle m'avait fait écouter Reunited de Wu-Tang, tu vois, mm-hmm. des trucs comme ça.
Donc sur l'album Wu-Tang Forever en 97, ouais.
Ouais, c'est ça. Et j'avais 15 ans, je commençais déjà le rap français, tu vois, mais je m'étais pris des petites tartes comme ça, quand il y avait eu le Snoop Dogg aussi, What's My Name et tout.
Ouais, tout à fait.
C'est 93, ça, je crois.
Ouais, tout à fait, ouais.
Ouais. Et tu vois, on sait comment on a commencé à se prendre les premiers trucs. Après, je me suis pris NTM en 95, je crois, Paris sous les bombes.
Ouais.
Je crois que c'est le premier CD de rap français que j'ai acheté.
Ok.
Et en fait, je m'y suis mis petit à petit. Et surtout, la teutard que j'ai pris, en fait... C'est Guet-apens d'Express D.
Ouais,
tu vois,
bien sûr.
En fait, je me suis pris Guet-apens et on écoutait ça, je me souviens. Et c'était fabuleux. En plus, comme je te disais, je suis du 7-8, tu vois. Donc, Expression Directe, c'était le groupe du 7-8. Il n'y en avait pas 50 000, tu
de
vois.
Ouf, c'est clair qu'à cette époque-là. Et pourtant, tu viens du côté de Vélizy, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est très loin par rapport à Mont la Jolie. Et pour autant, c'est vrai qu'il y avait ce truc d'identification avec ce groupe, quoi.
Ouais, de ouf. Et Express D, c'était mon groupe quand j'étais jeune, tu vois. Et avant, il y avait la BO de la haine, mon esprit part en couille et tout. Et ça nous avait tous starté. Et j'ai commencé comme ça, quoi.
Ce qui est en plus intéressant que tu cites cet album en particulier, Guet-apens,
ouais.
c'est que c'est leur album de rap new-yorkais. C'est-à-dire que Express D, il y a toujours eu deux tendances à la fois, ce côté très... héritage de la funk des grands frères, des quartiers, etc., qu'on entend justement dans un morceau comme Mon esprit part en couille, mais aussi dans un morceau comme Dealer pour survivre, finalement.
Complètement.
Alors que Weedy et Le Tayen, c'était aussi des gros bousiers de rap new-yorkais.
Ouais.
Et que cet album-là, c'était leur manière pour eux de dire on aime aussi ce rap-là et on a envie de faire ça. Donc
c'est
plutôt marrant, quoi. Au vu de ce que tu vas faire comme musique après, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, Express D, au niveau des sonorités, c'était vraiment, je trouve, la liaison parfaite. Il pouvait avoir un son très New York, très sombre, et des sons plus funky. Et donc, en fait, j'aimais de ouf cette créativité et l'engagement qu'ils avaient aussi. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était important, tu vois, d'être...
Bien sûr.
Quand je dis engagement, c'est énervé, tu vois.
Ah ouais.
Et ça, quand j'étais jeune, c'était capital. Donc ouais, Express D, c'était mes premières grosses starts. Après, j'ai écouté en rap français, je crois que j'ai écouté tout ce qui s'est fait de 95, 96 à 2001, 2002, tu vois.
De ce goût qui s'est développé chez toi pour le rap, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie, justement, d'en faire partie? Est-ce que t'as commencé comme rappeur? Est-ce que t'as commencé comme producteur? Et quand est-ce que c'était à peu près dans ce parcours?
Ouais, bah, en fait, j'ai commencé à écrire mes premiers textes à l'été 98.
OK.
Et bon, avec quelques potes.
Donc, t'as 16 ans, puisque t'es de 90.
Ouais, c'est ça. C'est ça, je viens d'avoir 16 ans. Et on commence à écrire, on est quelques potes en bas de chez moi, on commence à faire nos premiers textes et tout. Et à l'époque, c'était dur, les phases B et tout, tu vois.
Et ça coûtait de l'argent, en fait, d'aller chercher les vinyles, etc.
Ouais,
c'était un budget, quoi.
Et puis, en plus, personne n'avait de platine vinyle chez nous, tu vois. Donc, c'était des CD. Et genre, il y avait l'instru de... Les premières instrus où j'ai rappé, c'était Underground Connection d'Assassin, tu vois. Et Meilleur Vœu, tu sais, tu te rappelles ce morceau-là?
Tout à fait, Meilleur Vœu, produit par Masta et Tefa de Kilomètre.
Ouais, c'est ça. Et l'instru, bon, on avait, je sais pas, quelques instrus qui tournaient à la MJC, tu vois.
C'était Prodigy Namor, Kerry James et les deux balles, je crois.
Ouais, je crois, ouais. Après, il y en a eu un deux.
Il y a Meilleur Vœu 2 avec Tandem, notamment.
Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, bah voilà, mes premiers faits d'armes, c'était là-dessus. On rappait des trucs, on prenait des petites séances à la MJC d'une heure ou deux, tu vois, avec deux anciens qui rappaient bien, d'ailleurs, tu vois. Et c'est mes premiers souvenirs. Et après, vu qu'on n'avait pas de prod, je me suis dit, j'ai envie d'en faire, tu vois. Et donc, après, j'ai commencé à en faire.
Est-ce que tu as eu envie d'en faire par nécessité ou est-ce que parce que déjà, en tant qu'auditeur, t'avais cette curiosité de te dire comment ça marche, ça vient d'où ces prods et comment on fait ça, quoi?
En fait, je voulais refaire ce que j'aimais, tu vois. Et y a des prods, en fait, qui m'ont, par leur douleur et leur émotion, elles m'ont donné envie de produire, tu vois. Et parce qu'en fait, je me sentais bien quand je les écoutais, tu vois.
T'as un exemple, par exemple, de prod comme ça?
Ouais. Certaines prods dans Ma Cité Va Craquer, par exemple, tu vois. Et surtout celle où je me rappelle jamais le nom, c'est, tu sais, quand ils se mettent à courir dans Ma Cité Va Craquer, après, je crois que c'est Ayam qui reprend ce morceau.
Dans Ma Cité Va Craquer, c'est passé donc Sanovi? Non.
Ouais, c'est ça.
L'étoile rouge devant ma face, c'est un diplôme d'honneur pour elle. Rien pour moi, mon honneur s'efface peu à peu. Chez nous, les cœurs se glacent très tôt, la peur se tasse. Pour rien, les frères se fracassent. Les patates volent, les mauvais coups s'enchaînent comme cette chienne de vie habituée au vacarme.
Et en fait, cette prod, quand je l'écoutais, elle me mettait trop bien. Tu vois, j'étais content de l'écouter. Et donc, du coup, cette prod-là, comme d'autres, et j'ai voulu, ça me paraissait très dur de comprendre comment faire ça. Mais en fait, j'avais tellement envie que je me suis dit, j'essaye, tu vois. Mais j'avais à la base aucune facilité au niveau de la musique, au niveau du rythme. J'étais grave nul. Mais je me suis dit, en vrai, je vais essayer quand même, tu vois.
En pur autodidacte, quoi.
Ouais, complètement. Et puis, donc, du coup, je m'y suis mis, tout simplement.
Tu m'as cité un morceau comme Meilleur Vœu, donc je le disais, produit par Kilomètre.
Ouais.
Tu m'as cité la BO Cité Va Craquer, qui est White Spirit.
Ouais.
On est vraiment déjà, avec ces producteurs-là, dans une école de production de rap français.
Ouais.
Avec des codes américains, je pense très important avec Mobb Deep ou genre avec Avok, ce genre de producteur, mais qui commence déjà, en fait, à faire un truc très spécifique qui va devenir un peu un son... un des sons du rap français.
Et c'est,
à mon avis, c'est pas anodin que tu me cites ces personnes-là au vu de la musique que tu vas faire après. J'ai l'impression que ça a été presque des modèles de production aussi pour toi.
En fait, les gens de mon époque, on s'est pris le 90 BPM, on se l'est pris en pleine gueule, tu vois, bon, entre 88 et 94 BPM, tu vois. Évidemment que Mobb Deep, ils ont façonné tout le rap français de cette époque, tu vois. La grosse prod en vrai qui m'a déclenché totalement, c'est Ellen Hurst, tu vois.
Ouais, bah oui, sur l'album du même nom, ouais.
Ouais, et donc, et cette prod-là, je pense que c'est cette prod-là qui a transformé un peu le rap CFranc, tu vois.
Ouais,
tout Mobb Deep, oui, mais celle-ci, en plus, tu vois, parce que ça a apporté la mélodie en plus, la mélancolie. Et donc, je me suis dit, ouais, en vrai, c'est ça que je veux. Parce que tu vois, quand la prod, elle tourne en boucle pendant, et que t'écris pendant machin, en fait, tu te sens trop bien, tu vois. Donc, j'ai commencé comme ça.
Tu le disais tout à l'heure, avoir des faces B à l'époque, c'était compliqué. Ouais. Mais avoir du matériel, c'était aussi compliqué.
C'était dur de ouf.
Donc, comment justement, avec ce peu de moyens et ce côté très autodidacte, t'as réussi ou t'as commencé à faire tes premières prods?
En fait, j'avais un vieil ordinateur Pentium 386, là. Et en fait, j'avais acheté Hip Hop EJ.
Ah, Hip Hop EJ. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu Hip Hop EJ, c'est le lointain ancêtre de Fruity Loops, en gros.
Ouais.
Pour schématiser un peu les choses, pour parler à des plus jeunes.
L'ancêtre
voilà.
Préhistorique, ouais. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'était catastrophique. Et en fait, j'avais pas de micro, évidemment. Et tu sais, à l'époque, tu avais des petits micros en plastique que tu connectais en jack, là.
Ouais.
Tu vois.
Ouais, tout à fait.
Et en fait, ma première prod, c'est j'ai enregistré le film The Killer.
Ouais.
Et un sample que d'ailleurs Raekwon il avait pris. Et j'ai enregistré le micro en plastique sur la télé, tu vois.
C'était ta méthode de sampling à toi.
Ouais,
quoi.
De ouf. Et avec les bruits d'hélicoptère et tout, et j'ai essayé de bidouiller quelque chose parce que les trucs d'origine, ils étaient complètement claqués. Et c'est ma première prod. Je ne l'ai plus là, c'est dommage. Mais c'est ma toute première prod dans ma vie, tu vois. Et j'étais content. En fait, j'avais quand même passé du temps. C'était nul, mais en fait, peu importe le résultat, c'est le chemin, le temps que t'as passé. C'était un bon moment, en fait. Donc, moi, ça m'a suffi. Tu vois, c'était parfait.
Et cette prod, ou ces prods que t'as commencé à faire, tu les plaçais dans ton entourage, justement, avec ce groupe de potes que t'avais? Ou
non,
c'était pour le moment juste...
Non, c'était juste... En fait, ça a toujours été juste le plaisir de faire.
Mm-hmm.
Il n'y a jamais eu une nécessité ou une envie à cette époque-là de faire voyager la musique. C'était juste un plaisir complètement égoïste, tu vois.
Du coup, ce truc de plaisir égoïste, à quel moment c'est devenu une réalité artistique pour toi, c'est-à-dire dans la démarche de faire de la musique qu'on sort aussi?
Ça, c'était 2011.
Ok, donc c'est bien plus tard alors.
Ouais, c'est bien plus tard. Pendant des années, en fait, j'ai fait vraiment de la musique pour moi et deux potes qui passaient chez moi. Et en fait, ils passaient, ils aimaient bien le son, tu vois. Je faisais écouter mes prods, ils me disaient « Ouais, ça c'est cool, ça ouais, ça non, ça ok. Bon, on fait un PS, vas-y, go. » C'est bon.
Il y avait, en fait, t'avais un rapport de ludique et de loisir à la musique, quoi, purement.
Ouais, mon auditoire, c'était mes deux potes d'enfance. Et en fait, c'était tout. Et c'était très bien. Et des fois, mon pote, on faisait une basse d'un morceau ensemble. Et puis, c'était cool. Puis après, on faisait un PES avec... on allait chercher des Haagen-Dazs, on fumait des gros joints et on jouait à PES, en fait.
Quelle vie incroyable.
Ouais, c'était fabuleux. C'était loin.
Et donc, tu disais 2011. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi la bascule de dire, en fait, la musique que je fais pour le plaisir, j'ai finalement envie de la diffuser, de la faire écouter à des rappeurs qui posent dessus ou même de la sortir moi-même tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au début des années 2010 pour qu'il y ait cette bascule?
La bascule, vraiment, c'est que je me suis retrouvé au chômage. Et en fait, je savais que j'avais 2 ans devant moi, tu vois.
Et donc, que je comprenne bien, pendant toutes les années 2000, tu as fait des études, du boulot, en fait, tu as eu un parcours classique.
Ouais, c'est ça, ouais. Comme tout le monde, lambda, chacun sa vie, tu vois. Mm-hmm. Et 2011, en fait, j'ai quitté je sais plus quel emploi et j'avais 2 ans de chômage devant moi. Et j'ai eu une petite rentrée d'argent.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, je me suis pris une MPC 1000 et j'ai commencé... fin 2010, et j'ai commencé à faire des instrus, tout simplement. Et je me suis dit, j'ai du temps. J'avais pas de réseaux sociaux avant. Tu sais, Facebook, j'étais complètement hermétique. Et j'ai fait des sons et tout. Et surtout, je me suis pris aussi un truc qui m'a motivé. C'était quand l'indice, il revient avec aucun sens.
Ok, donc pour nos plus jeunes auditeurs, l'indice, c'est un rappeur qui fait partie d'un duo qui s'appelle Lidis.
C'est ça, exactement.
Et qui était proche notamment d'une émission et d'un label collectif qui s'appelle Original Bomb Attack.
Ouais, c'est voilà. Ça. Ouais.
Et donc à la fin des années 90, début des années 2000.
Ouais, et donc il revient avec aucun sens et son maxi ou EP, enfin bref, mes classiques, tu vois.
Mm-hmm.
Et je sais pas, ça m'a stimulé, tu vois. Et ça tombait pile au moment où, en fait, je faisais des prods. Et je m'étais dit, putain, j'aimerais bien lui faire une prod, tu vois. Et donc, bref, je me mets sur Facebook et tout. Et puis, on se connecte assez rapidement. Je me connecte avec Charles Dugouffre, tu vois. Et après, il lui envoie des prods que je fais. Et donc, il avait pris une prod pour son album après, Mon Refuge, artiste virtuel, tu vois. Mmh,
tout à fait.
Et en fait, moi, mon ambition dans la musique, elle était très simple. Je faisais une prod pour Dislin, c'était fini. Tu vois, en fait, j'avais... Tu sais, moi, ça m'aurait suffi. Hein. C'était pareil. Hein. Et je faisais une prod pour Dislin. Je m'étais pris les 10 vraiment fortement quand j'étais plus jeune.
Bien sûr.
Et en fait, je l'ai trouvé trop chaud, ce qui dégageait, le message, la technique. En vrai, tout, tu vois. 22 ans, c'était mon morceau. Je pouvais mourir pour ce morceau, tu vois. Et quand ma mère, elle venait dans ma chambre à l'époque, quand j'étais plus jeune... Eh ben, je faisais pas écouter du Express D et tout. Mais un morceau des 10, je fais, tiens, regarde, tends l'oreille.
Arrête où ma mère va tirer, ça aurait pu être marrant de lui faire écouter. Mais je comprends l'idée, ouais.
En plus, je pense que ça a été écrit pour elle. Mais je fais, regarde et tout, comment ça rime et tout. Et je kiffais les 10, tu vois. Et donc, en fait, bah, ça a commencé. En fait, tout a commencé un peu avec Artiste Virtuel.
Il y a que des artistes virtuels dans un monde de geek. Que des artistes virtuels qui vivent au nombre de clics. Inspirés par une dizaine et par 50 cents. Mec, c'est artificiel ce que te montrent leurs clés.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a déclenché une case dans ta tête en te disant « Eh, mais en fait, il y a moyen que je puisse placer d'autres personnes ou... ?»
Non, même pas, en fait. Il y a juste d'autres personnes qui m'ont contacté.
Ok.
Et bah, je me souviens, à l'époque, c'était Sentinelle, le Suisse. Il y avait l'Exhaler en Belgique aussi. Mm-hmm. Et puis, en fait, je leur ai fait des prods. Parce que, j'étais content d'être là. Donc, moi, ça me suffisait. J'étais nulle part, mais j'étais déjà content d'être là. Et donc, j'ai commencé à leur faire des prods. Puis, en fait, de fil en aiguille, il y a d'autres gens qui ont écouté, m'ont envoyé des prods. Et c'était un peu avant l'époque du streaming.
Bien sûr, ouais. C'est la première moitié des années 2010.
C'est
ouais.
Ça. Donc, en fait, moi, j'arrosais les prods parce que juste, j'étais heureux, tu vois. Donc, je faisais des prods. Tu veux une prod, tiens, prends. C'est moi qui régale, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai envoyé des prods à tous les gens que j'aimais bien, des coups de cœur, des ceci. Et c'est parti comme ça, tout simplement.
J'aimerais qu'on s'arrête justement 2 minutes sur cette première production, cette première trace discographique qui est Artiste Virtuel.
Ouais.
C'est qu'elle, je trouve qu'elle dit déjà beaucoup de choses sur tes intentions musicales.
Ah ouais?
Parce qu'on est dans ce coup de cœur que tu avais eu pour une certaine forme de rap dès la fin des années 90, tu vois. Et alors qu'on est au début des années 2010, qu'il y a plein de mutations dans le rap.
Ouais, complètement.
Alors, parce que tu le disais aussi, finalement, tu étais très déconnecté, tu vois. Tu utilisais les réseaux sociaux, tout ça, finalement, ouais. Déjà, c'était pas ta tasse de thé. Mais j'ai l'impression que... sans que ce soit nécessairement conscient de ta part, dans le sens d'une posture,
ouais.
Tu faisais ce que tu avais envie de faire en dehors de toute mode, en fait.
Ouais, c'est ça. En vrai, j'ai toujours fait juste ce que j'avais envie, mm-hmm. Tu vois. Si demain, j'ai envie de faire de la country, en vrai, j'en ferai. Et sans problème. Mm. Bon, j'ai pas trop envie d'en faire. voilà, en fait, j'ai fait ce que je voulais écouter. Et ça, en tant que... artiste, entre guillemets, en tant que créatif, je pense que c'est... Enfin, moi, c'est ce qui m'anime, c'est de tout le temps faire ce que j'ai envie d'écouter. Et là, récemment, avec Okis, Rêve d'un rouilleur, tu vois, depuis quelques temps, j'ai envie d'écouter autre chose. Mm-hmm. Donc, je fais autre chose, tu vois. Et puis, parce qu'au bout d'un moment aussi, ce que j'ai fait, j'ai eu l'impression de tourner en rond. Mm-hmm. Et je pense que j'aurais pu faire ça pendant 20 ans. De plus, mais en fait, non, mais par rapport à la vie, par rapport à plein de choses, j'ai envie d'écouter autre chose, tu vois. Donc, je me suis mis petit à petit à faire d'autres trucs.
Tu le disais, il y a plein de gens qui commencent à te contacter, en Suisse, en Belgique, en France aussi.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai qu'entre 2013 et, disons, 2019, un petit peu avant le confinement,
ouais.
Il y a une série d'albums. Alors, tu fais des placements parfois sur des albums, mais il y a aussi toute une série d'albums où tu vas commencer vraiment à produire quasiment l'intégralité ou vraiment toute l'intégralité.
Ouais.
Des albums avec Paco, Swiftgad, Lucio Bukowski à Lyon, La Craps, qui est de Montpellier, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Artigan, enfin, plein de chants, plein de gens. Ouais. Comment ça fonctionnait, du coup? Est-ce que c'était une véritable volonté de ta part de dire, viens, on fait un disque entièrement tous les deux, parce que j'ai une idée précise de ce que moi je peux t'apporter. Est-ce que c'est simplement parce que t'envoyais tellement de prod que eux ils disaient bah en fait j'ai envie de faire un truc entièrement produit par toi. C'était quoi un peu ta démarche sur cette série d'albums que tu vas produire en intégralité quoi?
Bah en fait tu te doutes bien chaque album a sa vérité. Mm-hmm. Mais ce que j'ai préféré faire rapidement, je l'ai compris à partir de Pac-Man.
Ok, le premier album collaboratif avec Paco.
Ouais, c'est ça.
Qui sont en 2014 de mémoire.
Ouais, c'est ça. Et j'ai, en 2013. Fait, il y a deux projets. Alors, je ne me souviens plus exactement les années pour Pac-Man, mais il y en a deux qui m'ont donné envie de faire ça. C'est La Noblesse de l'Échec avec Lucho, mm-hmm. et Pac-Man.
Ok.
Bah avec Paco, on s'entendait vraiment trop bien, tu sais, ça fonctionnait super bien le duo, donc en fait, on a fait Pac-Man.
Oubliez-le, l'arc-en-ciel, la vie n'est pas si rose. Ouvrez les yeux, y'a le cancer, la tise et la cirrhose. La psychose, la ruse, le vice, l'avarice. Et la jet set s'amuse, loin de ma triste analyse.
Et avec Lucho, en fait, il m'a contacté. Et j'ai dit, bah vas-y, feu, on se fait un truc, tu vois. Et en fait, c'est ce que je préfère dans la musique, c'est-à-dire pouvoir développer un univers. Et parce que beatmaker, tu sais, c'est un peu un mot réducteur. Mm-hmm. C'est-à-dire, moi, j'aime faire de la musique, mais j'aime bien aussi avoir une idée globale de la musique et rien laisser au hasard. J'aime pas juste faire des prods, j'aime créer des univers complets.
Mmh, bien sûr.
Tu vois? Donc, j'ai rapidement compris que c'était ce que je préférais faire, c'est-à-dire avec un artiste, et on crée un univers complet, comme j'ai pu faire avec Artigan, où on avait fait Martyr Moderne aussi, avec Pejmax, ou Lucho Néfaste.
Tout à fait.
Ou Swift, ou Senamo Seite de la Smala, tu vois, mmh. Trois fois rien. C'est la même année, il y en a plusieurs qui sont sortis. 2016, il y a eu, début d'année, la Craps. Mm-hmm. Après, il y a eu Seite Senamo 3
La Craps, c'était 42 grammes.
Ouais, c'est ça.
Il y a eu aussi le Swift Gun Masterpiece.
Ouais, il y a eu Martyr Moderne. Mm-hmm. Et il y avait eu mon EP comme les autres.
Tout à fait.
La même année, ouais.
Du coup, dans cette démarche que tu as eue de vouloir créer des univers, le truc qui m'intéresse, c'est que dans le style de rap que tu fais, le style ouais. de production, c'est très épuré finalement. C'est une grosse caisse, une caisse claire, des hi-hats. Ouais, qui sont joués de manière très régulière ou peu importe comment on les joue, une boucle ou parfois des petits samples qui s'ajoutent. À quoi ça se jouait pour toi, pour chacun de ces rappeurs, justement, de créer un univers propre? Est-ce que c'est dans la manière de faire tourner les rythmiques, dans le choix des samples? C'était quoi, en fait, ce petit truc qui pouvait donner une ligne conductrice à un disque?
Bah, en vrai, la réponse, elle était dans les choix de samples. Parce que tu vois, cette même année, j'ai fait plusieurs albums uniquement boom bap, tu vois. Mais si t'écoutes un Trois fois rien et un Martyr Moderne, mm-hmm. ça n'a absolument rien à voir.
Tout à fait.
Et si tu mets un Masterpiece avec un Trois fois rien, ça n'a rien à voir non plus. Mm-hmm. Et t'as raison, c'était. Moi, j'étais dans mon minimalisme complet, c'est-à-dire sur mes prods, en moyenne, j'avais 5-6 pistes. Mais je me suis toujours dit que le simple, c'était le plus dur à obtenir et que la différence entre le simpliste et le simple, c'est très fin. Mm-hmm. Et en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce qu'au début, quand j'ai commencé des prods, et comme beaucoup, c'est-à-dire en fait, tu empiles les pistes et tu fais du cache-misère. Mais à partir du moment où tu veux sonner comme une certaine période, j'ai utilisé les outils de l'époque, entre guillemets, tu vois. C'est comme si j'essayais de refaire les pyramides et je prends juste un burin et un caillou. Et je me suis dit, pour sonner comme ça, le plus facile et le mieux, c'est de fonctionner comme ça. Et tu vois, avec les MPC de l'époque, découper, par exemple, c'était super chiant parce que tu n'avais pas les formes d'ondes et tout.
Ouais, tout à fait.
Et donc, la tendance, elle était à récupérer des samples plus longs que tu dépitchais et en fait garder le groove original du sample de base, mais en le dépitchant. Et toute cette période-là, en fait, moi, j'étais avec ma MPC 60. Donc,
fameuse machine qui était appréciée par DJ Premier, notamment, je crois.
C'est ça.
Aux États-Unis, oui.
Et en vrai, en venant de la mille où je découpais, charcutais et tout, j'ai trouvé une autre façon de sampler, entre guillemets. J'aurais pu le faire avec la mille, mais la 60, elle m'a obligé, tu vois. Comme disent...
Tu parlais d'obligation. Est-ce que du coup, c'est la contrainte qui était une forme de libération créative ou de trouver des ressources créatives quoi.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, dans la 60, 13 secondes de sample par défaut et 26 avec l'extension. Et en fait, t'as pas le choix, tu vois. Et donc, en fait, moi, la contrainte au niveau de la création, elle m'a toujours plu et intrigué, tu vois. Donc, je découpais moins que la 60. Des fois, je faisais des rajouts de sample, tu vois. Long, mais je charcutais pas. Et en fait, j'ai trop aimé cette période et j'avais le grain que j'aimais. 2016, c'était super parce que j'avais MPC 60, EPS 16. Et le combo des deux, on peut vraiment bien l'entendre. Le plus, c'est sur Masterpiece, tu vois. Et j'adorais. Et sur Martyr Moderne aussi, même s'il y a de la 2000, il y avait toujours le PS 16. Et je voulais mon propre grain, en fait, tu vois. Et c'était, à l'époque, c'était mon obsession.
De retour dans tes enceintes, et bien sûr que j'ai découpé les couses. Et je suis encore plus chaud depuis que l'ancien m'a dit découpe les tous. T'inquiète, je m'occupe du show. Dans le deuxième chapitre, à bouge les pouces. Pendant que tu chantes, que tu tournes les pouces. Moi, à chaque beat, les boucles j'épouse. Les flots givrés, je manie, c'est vrai. Et je me torture dans tous mes onces. Merde, aussi vrai que man, il peut pas dormir sans trouver le bon snare. C'est ouf, même si tu gères. C'est à l'échec que la défense mène. Et je me souviens encore du jour où Jeff m'a dit fonce.
Tu parlais de sample. On est arrivé à un moment donné où, que ce soit aux États-Unis ou en France, ça devenait compliqué de sampler des choses évidentes. Parce que pour des questions de droit d'auteur, ou alors il fallait vraiment bien découper pour que ce soit vraiment pas reconnaissable et tout. Est-ce que pour toi, justement, c'est devenu aussi un défi en tant que producteur de trouver d'une part des trucs qui n'ont pas déjà été samplés, parce qu'on avait déjà 30 ans d'histoire de rap derrière avec beaucoup de sampling,
ouais, bien sûr.
Et de les travailler de telle sorte à ce que, tu vois, ce soit original, qu'il y ait à la fois ta patte, ouais, et que ce soit difficilement reconnaissable aussi, quoi.
Ouais, bah, en fait, à l'époque, c'était une quête pour moi, tu vois, que mes samples ne soient pas cramés. C'était vraiment une quête. J'étais un peu intransigeant avec ça. Même si, bon, on peut toujours te cramer des samples, tu vois. Mais, et donc, du coup, je ne les notais pas non plus. Et, parce qu'après, quand j'étais un peu bourré et qu'on me les demandait pour ne pas les révéler, tu vois. Donc, je me suis dit, je les enfouis. Celui qui reconnaît, tant mieux. Et sinon, tant pis. Et à l'époque, c'était vraiment... je pense j'étais un peu con parce qu'avec le recul... Je suis pas sûr que c'est... Bien sûr, c'est toujours cool d'avoir des samples, tu sais, il y a que toi qui sais et tout, mais c'est plus devenu, avec mon évolution musicale, c'est plus devenu une nécessité. Mais à l'époque, vraiment, je trouvais ça trop important. Et dès que j'entendais un sample cramé, tu sais, de quelqu'un d'autre, je me disais, oh, t'as pas le droit, tu vois. Même si moi, ça a dû m'arriver, tu vois, mais je me disais, oh, t'as pas le droit. Et des fois, de temps en temps, j'ai des petits réflexes aussi. J'entends un truc récemment, là, et je fais, ah non, mais ce sample, c'est interdit. Mmh. Pour moi, c'est interdit. Mmh. Il y a des samples, en fait, tellement ils ont été retournés à grande échelle, tu sais, entre guillemets, quand c'est devenu dans le rap mainstream, genre là, c'est interdit. Mais si ça reste confidentiel, il n'y a pas de problème, tu vois. Mmh. Mais avant, j'avais vraiment ce truc-là d'aller chercher les trucs les moins cramés. Et même s'ils étaient cramés, de faire en sorte de les... Décramer, je ne sais pas comment on appelle ça.
De les décramer, c'est pas mal ça.
Et ouais, c'était vraiment ma quête parce que ouais, j'étais un peu, entre guillemets, je dirais, extrémiste de ça.
Surtout qu'on a une époque en plus où les VST,
ouais,
les instruments virtuels avec lesquels on peut composer, se démocratisent. Ouais. Donc toi, tu as encore ce truc de dire non, en fait, moi, je veux continuer à sampler peut-être sur du vinyle. Ou
ouais, ouais, bien sûr. Mais ça a commencé en vérité à se démocratiser plutôt, je dirais pas les instruments virtuels, mais...
Les sons synthétiques, quoi.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Dans le rap, ça a commencé...
Dans les années 2000, au final.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ça... Je pense aussi, parce que tous les anciens, on les a saoulés, tu sais, avec les samples, etc. Donc, ils se sont dit, bon, là, on va composer, ça va être... on va pas se prendre des procès, des trucs comme ça. Mais devenu... Du coup, une grosse partie du rap français est devenue très triste dans le début des années 2000 jusqu'à, on va dire, il y a toujours eu des trucs cool, tu vois, mais il y a eu une tendance à composer pour des mecs qui ne savaient pas nécessairement composer. Et des fois, tu réécoutes des sons de 2004, 2005, 2006, même de grands groupes. Et en vrai, c'est même eux, je pense qu'ils regrettent, tu vois. Mais ouais, comme tu dis, maintenant, bon, c'est les instruments virtuels. Et le sample, j'ai toujours trouvé que ça apportait une vraie plus-value. Bah, quand tu prends un sample et que tu as 4 ou 5 mecs virtuoses dans tous les trucs, toi, derrière ton instrument virtuel, tu sais comment refaire un truc... les mecs, ils étaient 4-5 et c'était des sommités dans leur domaine. Mm-hmm. Comment tu veux faire mieux qu'eux ou avoir plus de chaleur? En plus, il y a des façons d'enregistrer, des micros. C'est pas possible, tu vois. Donc bien sûr, on peut composer, c'est grave cool, mais le sample, j'ai toujours trouvé que ça, qu'il y avait un truc intéressant.
Marcher sur des œufs avec des poussins dans les bottes, cracher sur ces vieux qui ont des oursins dans les poches. J'ai enchaîné un couplet de plus avec un Kamaz qui colle. Je vais t'enseigner la roulette russe avec un Kalachnikov.
Dans cette période dont on parle justement sur en gros autour du milieu des années 2010, là où tu es extrêmement productif et avec où tu travailles avec énormément de rappeurs justement sur des projets collaboratifs intégralement produits. Est-ce qu'avec le recul, il y en a un que tu te dis ce qu'a réussi à faire ce rappeur en termes de rap, y a une alchimie avec ce que moi j'ai voulu réussir, ce que j'ai cherché à faire en termes de musique. Tu vois, est-ce qu'il a retransmis en mots finalement ou en rap ou en interprétation ce que moi j'ai essayé de retransmettre en émotion avec ma musique ?
En vrai, tous mes albums collaboratifs, c'est un peu mes enfants.
Bien sûr.
Enfin, tu vois, j'ai une tendresse particulière pour tous parce que moi, souvent, ce que je me dis, c'est que la musique, c'est un prétexte pour faire des rencontres. Tu vois, c'est ça le truc. Et je me souviens beaucoup plus des rencontres que j'ai faites avec les gens, les discussions, les rigolades, que des noms d'instru que j'ai pu faire. Ou dans Pac-Man, je ne peux pas trop faire le tracklist, tu vois.
Ouais, ouais.
Par contre, je peux me rappeler de tous les bons moments que j'ai passés avec Paco.
OK, ouais.
Tu vois. Et pour revenir à ta question, tous, en fait, ils se sont adaptés. Moi, je me suis adapté à eux. Et des fois, de temps en temps, je ne sais pas, tous les 4-5 mois, je me mets sur YouTube et je réécoute quelques sons que j'ai produits, tu vois, pour voir si ça vieillit bien, pour voir si c'est pas devenu nul ou quoi.
Et c'est quoi le verdict, en général ?
En vrai, je reprends du... En fait, vu que je les écoute, je m'écoute jamais, tu vois, j'ai toujours un petit plaisir parce que ça réveille un soupçon de nostalgie, tu vois.
Ça ouvre une boîte à souvenirs, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est mon petit plaisir. Mais je pense que je regrette aucun album collaboratif que j'ai fait. Et je suis content d'avoir essayé à chaque fois de proposer des univers différents, même si au final, comme je t'ai dit, souvent, il y avait, pendant plusieurs années, il y avait 5 pistes et que c'était... on va dire un boom-bap traditionnel. Mais je suis content, malgré ça, parce que le boom-bap, c'est quand même vaste. Tu vois, tu peux faire beaucoup de choses.
C'est une question que je vais te poser après, mais je te laisse finir là-dessus. Ouais.
Il y a 50 000 façons d'en faire, tu vois. Et puis même, en vrai, après, je ne suis pas un grand fan des appellations. La musique, c'est de la musique et point barre. Donc, ouais, voilà.
Oui, voilà. Il n'y a pas forcément un disque en particulier qui... sur lequel tu as la sensation d'avoir... être arrivé une forme d'aboutissement pour toi, un peu toute cette période, c'est une forme de démarche d'aboutissement, quoi.
Ouais, parce que... Non, mais c'est surtout aussi... tu sais, la musique, tu sais bien, je sais pas, tu vas rentrer chez toi, tu vas vouloir t'écouter un truc, puis demain, un autre. Là, je vais avoir... un album, entre guillemets, préféré que j'ai fait. Tu vas me poser la question dans 3 jours.
Ouais, ça changerait, bien sûr.
Ouais, ça va être autre chose. Donc non, je peux pas en mettre un devant les autres en termes d'album collaboratif.
Je suis un homme de principe qui a choisi ses points au port d'armes. Un château de cartes construit un soir de tornade. Je ne connais que la méfiance et le qui-vive. Je suis en quête d'une miséricorde divine.
Tu parlais justement du fait que... cette catégorisation d'un style de rap qu'on dénomme le boom bap.
Ouais.
Pour des oreilles distraites, ça pourrait sembler être des choses qui peuvent être répétitives.
Ouais,
c'est très codifié, ce qui est certain.
Ouais, ouais.
Mais je trouve que justement, ta discographie sur cette période-là dit quelque chose sur toutes les variétés. Tu le disais, il y a 50 000 façons d'en faire. Et je trouve que ça se joue beaucoup. Alors, tu parlais du sampling, évidemment, qui donne l'esprit, l'atmosphère d'un disque.
Ouais.
Mais je trouve qu'il y a un truc chez toi aussi, c'est la manière de traiter les rythmiques.
Ouais.
C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des trucs très droits, très rap français, on va dire.
Ouais, ouais.
Il peut y avoir du swing,
ces petits
éléments de batterie décalés qui font plus penser à des choses qu'on entend aux États-Unis. Il peut y avoir du jeu sur les hats, comment on place les hats, etc. Donc, j'ai l'impression que... je ne sais pas si c'était déjà une démarche consciente de ta part ou simplement le fait d'avoir envie de faire de la musique que tu voulais entendre.
Ouais,
quoi. Il y a toute un nuancier finalement de boom-bap dans tout ce que tu as produit justement avec tous ces artistes-là.
Ouais, parce qu'en fait, c'était. Donc j'étais entre guillemets cantonné dans le truc que j'aimais faire. Mais comme tu as dit, il y a plusieurs façons de faire ce truc. Et je voulais pas faire des répétitions d'albums. Alors, pour des oreilles extérieures, évidemment, tu dis à quelqu'un qui écoute pas de rap. Tu lui mets du Lucio Bukowski ou du Gazo, c'est du rap. Pour des gens qui connaissent
bien
pas.
Bien sûr, oui, pour des gens qui sont complètement hermétiques au rap. Exactement. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
Mais par contre, pour des gens qui tendent l'oreille, qui connaissent un peu ce truc, bah, eux vont percevoir, comme toi, là, les nuances que j'ai essayé de mettre, tu vois. Donc, c'était, je pense, assez vaste. Tu vois, mon album Too Much Memory, il ressemble pas à Martyr Moderne.
Ouais. Pourtant, c'était... Too Much Memory, c'est un album instrumental, justement. Ouais, voilà, c'est t'en sors beaucoup aussi à cette période-là, ton nom. Ouais,
ouais, exactement. Bah, en fait, j'en ai sorti parce qu'à l'époque, c'était dur de trouver des faces B. Et à l'époque où j'ai commencé à sortir, 2012, il n'y avait pas autant d'instrus sur YouTube, tu vois.
C'est vrai.
On en trouvait, mais ce n'était pas comme maintenant où vraiment il y en a partout, et tant mieux, tu vois. Mais je me suis dit, bon, en vrai, j'ai voulu redonner ce que je n'avais pas eu, entre guillemets. Ça, c'est comme tu n'as pas d'argent, tu veux gâter tes gosses quand tu en as, tu vois. Bah, c'était un peu le même délire.
Je comprends, ouais.
Et donc, du coup, j'ai voulu, en vrai, j'ai voulu partager. J'ai juste voulu partager, et puis s'il y avait des gens qui aimaient bien les instrus, qui rappaient dessus, ben, moi j'étais heureux, s'ils étaient heureux, j'étais heureux. Tu vois, c'est tout.
C'est du partage.
Ouais.
J'ai envie qu'on parle d'un morceau quand même en particulier, parce que j'imagine que pour toi, le fan de rap français que tu as été plus jeune, cette prod-là doit avoir un petit truc en particulier, c'est qu'en 2015, tu produis un morceau pour Kuchen,
okay, ouais.
Qui est le dernier morceau de son dernier album en date,
ouais, c'est ça, ouais.
Qui s'appelle Debout.
Ouais.
Comment ça s'est fait, en fait, le fait de placer ce morceau-là pour quelqu'un comme Kuchen?
Ouais, franchement, cette histoire, elle est trop marrante. C'est qu'en fait, avant, j'avais un iPhone, et je suis passé un Android juste avant de descendre sur Montpellier, puisqu'on avait des trucs à faire avec la Craps, tu vois. Mm-hmm. Et c'était à cette période-là. Et en fait, je sais pas pourquoi, je mets toutes mes instrus que j'ai fait récemment sur Android,
okay.
Tu vois. Et je pars avec. Et puis, je vais là-bas et tout. Et là, je reçois un message de Jeff Lehner.
Jeff Lehner, qui est un rappeur de Grenoble et qui à un moment donné a été signé sur For My People, le label de Kuchen.
C'est ça. Et en fait, il m'envoie un message, il me dit, parce qu'on avait bossé des trucs ensemble et tout, et on s'entendait super bien, tu vois. Et il m'envoie un message, il dit, ah là, je sais plus s'il était avec, mais Kuchen finit son album, là, et il cherche un truc un peu comme tu fais, t'aurais pas un truc. Et je me souviens, j'étais avec la crap, c'est en vrai, j'envoie 4-5 boucles, tu vois. Et des trucs de 50 secondes. Et ce que j'avais sur le moment, quoi.
Mmh, bien sûr.
Et je renvoie et tout. Et il me dit, oh putain, il a kiffé celle-ci et il y a moyen que tu la rallonges, tu vois. Et en fait, j'étais grave pas chez moi, j'avais rien. Et donc, j'ai demandé à un pote sur Montpellier, tu peux boucler la prod juste pour lui envoyer, s'il te plaît. Et donc, il boucle la prod, il lui envoie et tout. Ensuite, on part faire un concert à Nantes. Et avec la Craps, on fait Montpellier-Nantes, et je me souviens, j'avais de la fièvre, j'étais pas bien, j'avais pas dormi, vraiment mal. Ensuite, j'ai fini complètement bourré, c'était vraiment n'importe quoi.
T'étais pas dans ton meilleur état, quoi.
Voilà, le lendemain, je rentre en blablacar, le mec, c'était son premier blablacar, moi, j'ai dormi tout le long, enfin, c'était abominable, dans un état vraiment fou. Et là, on me dit, coup de chaîne à poser, il faut faire des arrangements pour le refrain. Et là, mais quand je te dis, j'étais trop mal. Et en fait, j'ai fait les arrangements pour Kuchen, du refrain et tout, et j'étais trop, trop mal, tu vois. Et donc, du coup, bah, je fais les arrangements, je lui envoie et tout. Et genre, quelques jours après, ça a été mixé, masterisé, le truc est parti. Et bah, c'était un peu n'importe quoi, tu vois, mais c'était marrant. Et après, il y a eu le clip. Je me souviendrai encore, ils l'ont fait chez Deniso à l'époque, tu sais, sur Canal+.
D'accord, ouais.
Et en fait, Kuchen, il a joué ce morceau, Debout. Mais c'était marrant parce que, tu vois, le petit pied de nez de l'histoire, c'est que quand t'es jeune et que t'écoutes du rap, NTM et tout, c'était un peu dur. Tu sais, tes parents, ils se disent, ouais, qu'est-ce qu'il écoute quand même? Et puis, 20 ans plus tard, tes parents, ils voient que t'as fait l'instru pour Kuchen qui passe chez...
Chez Deniso.
Ouais, chez Canal+, et là, ils sont fiers, tu vois. Et moi, ouais, je trouvais ça rigolo, tu vois. Mais ouais, l'histoire, elle est marrante, quoi. C'était cool pour moi. J'étais content.
Le monde va mal, mais on est debout. Construit dans la lutte, fils de combat, on est né pour. La vie m'a donné des coups, puis des cours. J'ai vite compris que vivre dans la haine, ça finit toujours par jouer des tours.
Kuchen, en plus, il avait ce morceau qui s'appelait That's My People, dans lequel il avait cette phrase où il disait trop sophistiqué, c'est péché.
Ouais,
et je me dis que ça.
Elle m'a marqué.
Bah, je me dis que ça définit assez bien aussi ton approche musicale, finalement, sur toute cette période, quoi.
Et ce qui était drôle aussi, En vrai de vrai, c'est que cet instru-là, mm-hmm. à la base, c'était un... Je l'ai fait, je me souviens, c'est un 88 BPM, je crois, et je l'ai fait un remix de Char.
Ok.
Je crois que c'était le remix de Marche arrière de Char. Je crois que c'était... À la base, c'était ça.
Ok.
Et donc, je l'avais fait écouter et tout. Et on ne savait pas trop ce qu'on allait en faire. Mais j'avais toujours la prod de... Juste la boucle de 50 secondes. Et c'est celle-là que j'ai envoyée. Donc, il y a une version qui existe dans mon PC de Debout et Char, entre guillemets. C'est marrant.
Donc, c'est un bon message, ça aussi, aux jeunes producteurs. Tout peut être récupéré, réutilisé un jour.
C'est comme Lavoisier, rien ne se perd.
Tout se transforme, exactement.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Est-ce que cette opportunité, parce que d'un seul coup, t'étais dans un créneau de rap français qui était presque le rap français alternatif de l'époque,
ouais.
Cette scène, ce qu'on appelle la scène indé par défaut,
ouais, c'est ça.
D'avoir d'un seul coup produit pour une des plus grandes figures historiques de ce genre ouais. musical, est-ce que ça t'a fait passer à un autre niveau de notoriété? Est-ce que d'un seul coup, t'avais des demandes de personnes qui jusque-là te demandaient jamais d'instru ou pas nécessairement?
Non, en fait, j'ai eu l'inverse. C'est-à-dire, tous les gens qui me demandaient des prods un peu à l'arrache, des fois même sans me dire bonjour, t'as pas une instru? En fait, j'en ai plus. Je sais pas, ils ont dû me voir comme si, waouh, il a fait une prod Cool Gene, c'est un ouf et tout. Et non, en fait, c'était l'inverse. C'était, je sais pas, j'ai eu l'impression que les gens, ils me voyaient autrement, okay. alors que, bon, au final, il s'est rien passé, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, j'avais moins de demandes farfelues.
Ok.
Ils ont dû se dire, je sais pas ce qu'ils se sont dit, tu vois, les gens. Mais non, c'était plutôt l'inverse. J'ai eu moins de sollicitations.
Et est-ce que tu as eu plus de sollicitations dans le rap français, avec beaucoup de guillemets mainstream, c'est-à-dire de grosses têtes, justement, qui d'un seul coup auraient pu être intéressées par ton son?
Bah non, parce que je pense que c'est pas ce qu'ils cherchaient.
Ouais.
Si j'avais été le style qui marchait en ce moment, ouais. bah c'est normal, je pense qu'on serait venu me chercher. Mais ça, c'était pas le cas. Et non, j'ai pas eu nécessairement de... Après, il y a toujours certaines personnes qui faisaient autre chose et qui aimaient bien faire une prod boom bap, entre guillemets, mm-hmm. tu vois.
Ouais.
Donc, des fois, on m'a appelé pour ça. Mais sinon, non, pas nécessairement.
Et toi, t'as jamais cherché à devenir un producteur de placement, c'est-à-dire vraiment rentrer dans cette économie
En vrai, ça m'intéresse pas. Mm-hmm. Ça ne m'intéresse pas. Si le gars connaît un gars qui me connaît, bon, là, sûrement, c'est possible. Je vais faire entre guillemets, un effort ou quoi, par affinité. Mmh. Mais sinon, en vrai, non, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je préfère... créer complètement, de partir de zéro, ouais. entre guillemets. Et cette espèce de... Après, c'est assez moderne, tu vois, je pense, mais cette course effrénée au placement de prod et tout, bon, elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas le côté humain, il n'y a pas le côté un peu plus convivial. Et en vrai, la démarche, elle ne me va pas, tu vois. Après, ceux qui le font, tant mieux. Et c'est super, mais...
Ça ne correspond pas à ta personnalité, tes envies.
Non, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire.
Tout à l'heure, tu me disais quelque chose d'intéressant, c'est sur toute cette période où tu as été très productif et tu as composé, produit beaucoup de disques, c'est que tu as pu avoir le sentiment peut-être de tourner en rond.
Ouais.
Quand est-ce que tu l'as eu justement, cette impression qui demande aussi, tu vois, d'être en phase avec ses propres émotions, ses propres pensées, d'avoir peut-être un regard rétrospectif? Quand est-ce que c'est arrivé, ça?
Alors, en vrai, c'est arrivé quand j'ai perdu mon père en 2017.
D'accord.
En mars 2017. Tu sais, quand tu perds un parent, tout s'arrête un peu, tu vois. Et donc, l'album qui m'a fait tenir à cette période, m'a fait un peu m'accrocher, c'est l'album que j'ai fait avec Artigan. Mm-hmm. Et on l'a fait tranquillement,
Même si avec le recul, en fait, on l'a fait à une vitesse normale, mais on l'a fait assez tranquillement. Mm-hmm. Et c'est cet album qui m'a permis de pas lâcher et de continuer. Mais j'ai eu un espèce de moment de flottement, si je puis dire. Enfin, j'ai plus jamais eu la productivité que j'avais avant, à partir de ce moment-là. Parce qu'en vrai, il y a un truc qui s'est coupé, tu vois, à partir de ce moment-là, je dirais. On va dire qu'avant 2017, c'est les années de la fougue et de l'insouciance.
Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis ça alors que tu es déjà trentenaire. Donc, tu as eu une espèce de seconde jeunesse grâce à la musique, c'est ça?
Je parle uniquement musicalement.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Mais c'est exactement ça. Et après, en 2017, j'ai perdu mon père. Et pendant quelques années, j'ai pu ce rapport-là avec la frénétique, avec la musique. Mm-hmm. Tu vois, j'ai eu un autre rapport qui me déplaît pas. Mais avant, genre, c'était maladif. Donc en vrai, ça m'a fait, musicalement, je pense que ça m'a fait du bien. Mais si je ne faisais pas une bonne prod pendant un jour, le lendemain, je n'étais pas bien. Deux jours, tu sais, si ça m'arrivait trois jours de ne pas faire une bonne prod, tu sais, je le vivais mal. J'avais besoin de ce truc-là, tu vois. Et maintenant, ça a complètement changé. Pendant deux mois, je peux ne pas faire une prod et pas allumer la MPC, tu vois. Et j'ai un autre rapport à la musique qui est moins compulsif. Et avec peut-être plus de recul ou de sagesse, ou je sais pas, tu vois. Mais en fait, mon rapport à la musique, il est différent de l'époque. Et je pense que c'est le moment charnière où tu remets un peu tout en question. Je pense que c'est 2017, ouais.
Est-ce que ça t'a amené justement à repenser aussi ta musique en termes d'esthétique?
Ouais.
C'est-à-dire pas complètement raser la table, tu vois, mais de te dire, est-ce que je peux pas essayer de faire autre chose maintenant que j'ai peut-être un peu fait, entre guillemets, le tour de la question, quoi?
En vrai, je me pose jamais la question de est-ce que je veux faire autre chose?
Est-ce que j'ai envie, peut-être? Tu vois, tu parlais d'envie, tu vois, d'avoir envie d'écouter, de faire la musique que tu aimerais écouter, quoi.
Ça, en fait, à partir du moment où je me dis ça tout le temps, que je vais faire la musique que j'ai envie d'écouter, eh ben, en fait, j'ai pas besoin de le réfléchir.
Ouais, l'intellectualiser.
Ouais. En fait, ça, j'ai compris rapidement que c'était mon moteur, c'était faire la musique que j'ai envie d'écouter, tu vois. Et donc, du coup, petit à petit, je me suis dit, j'ai écouté autre chose. J'ai toujours écouté autre chose, mais là, vraiment, j'avais du plaisir à écouter autre chose en termes de rap. Mmh. Et donc, du coup, j'ai évolué vers une direction. J'aime bien écouter d'autres trucs différents et maintenant les faire aussi, ouais.
Je trouve que justement, à partir de 2020, il y a un nouvel arc qui s'ouvre un petit peu justement dans ta discographie. C'est-à-dire que on peut t'entendre sur des productions comme les morceaux, 4 décembre ou Starting Block, tu vois, de Limsa, où d'un seul coup, c'est des cadences et des rythmiques qui sont plus modernes par rapport à ce que tu faisais avant. Il y a aussi des albums instrumentaux comme Game Over ou Yesterday qui sont très différents l'un de l'autre, qui sont aussi différents de ce que tu faisais avant.
Je trouve
que Yesterday, il y a cette instrumentation plus pop, plus aérienne, mais même quelque chose comme Game Over où c'est beaucoup plus poisseux que ce que tu faisais avant. D'un seul coup, j'ai l'impression que tu as un champ des possibles qui s'est aussi ouvert en termes de créativité à cette époque-là où d'un seul coup... Alors, je ne sais pas si le mot « tu t'autorises », c'est la bonne manière de le dire, mais en tout cas, voilà, tu fais découvrir d'autres facettes de ta créativité, quoi.
Ouais, en fait, tu vois, par exemple, Limsa, c'est que j'apprécie bien le personnage. Et donc, du coup, il m'a demandé des trucs. Et comme je l'aime bien, en fait, je peux tenter, entre guillemets, des trucs autres, parce que lui, ce qu'il cherchait, ce n'était pas du boom bap, tu vois. Mais comme je l'apprécie, en fait, j'ai été chercher... autre chose, parce que ça me faisait plaisir, entre guillemets, de lui faire plaisir. Et tu vois, c'est toujours vraiment une question de relation avec gens et tout.
Gentil garçon, je ne sors qu'à l'heure où toutes les bad girls sortent. L'été, ça pousse comme des hardeurs pour se foutre en débardeur short. Frérot, d'où je viens, les gars, ils aiment pas ouvrir des livres. Préfère ouvrir des chichas et des barbershops.
Quelqu'un d'autre que je connais pas, que j'apprécie pas autant, m'aurait demandé la même chose. En fait, j'aurais même pas répondu.
Donc, est-ce qu'il y avait une forme de défi aussi pour toi?
Non, même pas. C'est juste lui faire plaisir.
Okay.
Parce qu'au fond de moi, même si j'ai proposé certains trucs pendant des années, je sais ce dont je suis pas capable, mais je sais aussi, entre guillemets, ce dont je suis capable. Et comme tu l'as dit avec Yesterday, avant j'avais fait Infinity moins 1 en 2018.
Tout à fait.
C'était un album un peu trip-hop. Mm-hmm. Et en fait, le décès de mon père a fabriqué Infinity moins 1. Je pense, tu vois, c'est l'album pour lui rendre hommage. Tu vois.
Okay.
Et donc après, où j'ai commencé à plus composer, faire des trucs différents, et ça m'a... En fait, ça, la vie est bien faite, ça m'a ouvert des chakras, on va dire. Et donc, ouais, bah, tu vois, les prods un peu... comme tu as dit dans Game Over, en vrai, c'est des prods que je faisais depuis des années, par exemple. Tu vois. Mais en France, entre guillemets, les gens qui rappent dessus, je en trouvais très peu de bons. Mm-hmm. Tu vois, il y avait une espèce de ultra niche. Et on en discutait souvent à l'époque avec Budacris, Just Music, tu vois.
Salutations à eux, Just Music Beats, très très fort.
Que j'apprécie beaucoup, on se connaît depuis des années, tu vois. Et on discutait beaucoup de musique. Et c'est Bouddha, je le trouvais super talentueux. Mm-hmm. Tu vois, on a, je pense, beaucoup de respect l'un pour l'autre, même si on ne fait pas la même chose. Mais j'attendais, en fait, que ce soit son moment, son heure, tu vois. Et là, quand je vois commencer maintenant, entre guillemets...
Ils sont dans une productivité très Money Days du milieu des années 2010 pour eux, là, depuis 2-3 ans. Ouais.
C'est ça. Et puis, entre guillemets, un peu plus sur le devant de la scène, ouais. Même si je le connais, je sais qu'il s'en fout.
Ah oui, c'est clair.
Mais moi, ça me fait plaisir parce que c'est de la bonne musique et c'est la musique que j'apprécie. Et même déjà à l'époque, quand je sortais des gros morceaux de boom bap de bâtard, ils m'envoyaient des trucs et je kiffais. Je kiffais déjà, tu vois. Mais je n'avais pas nécessairement l'envie d'en faire parce que je ne trouvais pas ici de bons rappeurs qui font ça bien, ouais. Tu vois. Maintenant, ça commence à, je trouve...
Ce truc très crapuleux, justement.
Ouais, voilà. Ouais. Mais parce qu'on en discutait... On en discutait hier avec Max et un autre pote. Mais pour faire ce genre de musique bien, il faut vivre ce genre de musique.
Bien sûr.
Tu vois, c'est un peu... On discutait pareil, on faisait un parallèle avec la drill. Et la drill anglaise, et les mecs, ils sont en bas du bâtiment, et ils surinent tous les 4 matins, et ça a fabriqué la musique... Et en France, ils en font, alors t'as quelques qui sont bons. Mais en fait, quand t'as pas le mode de vie, tu vois, ce serait très difficile en France d'arriver avec un parallèle West Side Gun, par exemple. Mm-hmm. Parce que Conway, tu sais, les mecs qui se prennent des balles dans la bouche,
bien
tu vois.
Ouais, tout à fait.
Et en France, c'est pas le même lifestyle. Donc, c'est pas possible de refabriquer ça, entre guillemets, en France. Tu vois, même si on se kiffe les trucs, on kiffe les gars qui rappent sur les trucs comme ça, ce sera pas exactement, tu vois, la même chose.
Je suis d'accord. Justement, je trouve intéressant, tu vois, on parlait des morceaux pour l'IMSA avec ses cadences plus modernes, avec des rythmiques plus longues, parfois des roulements de hi-hat, ouais. c'est des choses qu'on n'entendait pas forcément. Et je trouve que, tu vois, avec des artistes comme Aketo, ouais. Sur son disque sorti l'an dernier, ou même lui, il est sous autotune sur un morceau, tu vois, ce qui ouais. était assez inédit, tu vois, sur ouais, une prod à toi.
Complètement.
Le morceau plan annulé de souffrance aussi.
Ouais.
C'est des choses qui, sans, comment dire, se départir de ton identité musicale, ouais. parce qu'il y a toujours cette science de la boucle,
ouais.
parfois avec une forme de mélancolie ou de rage,
ouais.
Y a cette nouvelle manière de les traiter et de les mettre en rythme, justement.
Ouais, ouais, bah en fait, c'est parce que ces gens-là que j'apprécie, tu vois, Aket et Souf, eux, je savais ce qu'ils recherchaient, entre guillemets. Ils ne voulaient pas un truc boom-bap strict et tout. Ils voulaient d'autres choses. Mais vu que c'est eux qui me demandent, eh ben, en fait, c'est pareil que l'IMSA, ça me fait plaisir.
Ouais, c'est ça.
Si c'était d'autres, ils me demanderaient des prods comme ça et tout, en fait, ouais, j'aurais la flemme. Mais quand c'est des potes qui me demandent un truc, ils peuvent me demander des trucs farfelus ou différents, ou comme le morceau... tu vois, Santé Bonheur
ouais.
d'Aketo.
Auquel
là.
Je pensais précisément. Ouais.
C'est ça. Et ben moi, c'était une prod que j'avais déjà fait, mais je l'ai envoyé, il a fabriqué ça. Et c'est super, c'est cool. Tu vois.
C'est de ma faute si j'en suis là aujourd'hui. Y a plein de coupables dans ma tête, mais c'est moi le boss. J'ai choisi entre boire ou conduire. Y a pas de courage à l'admettre, ça c'est fastoche.
En 2021, il y a... deux disques importants pour toi qui sortent, qui sont deux disques collés l'un à l'autre, c'est le Star Game.
Ah ouais, c'est vrai.
Bah ouais, quand même, compilation importante qui en fait réunit plein de personnes avec qui tu avais déjà travaillé, d'autres personnes avec qui tu n'avais pas encore eu l'occasion de sortir des choses. Comment est née l'envie et l'idée justement de faire ce disque-là, ces disques-là d'ailleurs?
En fait, j'ai acheté une nouvelle machine, c'était un ASRX et j'avais jamais utilisé ce truc-là.
qui est une machine assez mythique aussi dans l'histoire de la production du rap.
Ouais. La SRX, c'est une bonne machine. C'est un peu le concurrent des MPC. Mm-hmm. Elle a une forme un peu farfelue, mais elle était marrante. Et je l'avais trouvée pas chère sur Internet. Elle était sur Panam. Char, il avait été me la chercher. Il me l'avait récupérée, tu vois, vu qu'il était sur Paris. Mm-hmm. Et donc, en fait, c'était en décembre. Et je la prends à la maison et tout. Et je commence à faire une instru avec. Et en vrai, je commence à sampler en stéréo. Parce qu'avant, je samplais tout le temps en mono. Je sais pas pourquoi, mais enfin, je préférais le rendu. Et puis surtout, dans les vieux sampleurs, bah, t'avais que du mono, tu vois. Donc en fait, j'étais obligé de sampler en mono.
Encore une fois, la contrainte.
Ouais, voilà, c'est ça. Et là, je me suis dit, j'aurais pu sur certains MPC que j'avais en stéréo, mais là, je me suis dit, je sample en stéréo. Donc je fais une prod, deux prods, j'essaye d'apprivoiser la machine et tout. Et je fais plusieurs prods. Et puis au bout d'un moment, j'en ai 8-9, tu vois. Je dis, c'est cool, j'en faisais une ou deux par jour. Je fais, c'est cool, en vrai, ce serait peut-être le moment de faire une espèce de compile, tu vois. Et donc, du coup, je fais les prods, j'en envoie quelques-uns, et en fait, j'envoie 4-5 messages. Mon pote HM, ouais, tu serais chaud, ouais, de ouf, Pege, Olzico, tu sais, mes frérots, mm-hmm. tu vois. Et tout le monde est chaud, et puis au bout d'un moment, je crois qu'il y a déjà 12, 14, 15, 16 morceaux de prévu. Et il y a toujours des gens qui me disent « Ah, tu veux pas inviter lui ?» ou « Tu veux pas inviter lui ?» Et ben on monte à 17, 18, 19, 20. Et puis après, « Oh, putain, moi, j'aimerais bien bosser avec lui. J'ai jamais pensé avec lui. Ah, toi, t'es chaud ? Ah bah ouais, ah bah c'est lourd et tout. » Et au final, je sais plus, 40 morceaux.
40 morceaux, ouais. En comptant aussi les interludes, présentations par George Eddy.
Ouais, c'est voilà. ça. Et donc, en vrai, c'était un projet de kiffeur. J'avais jamais fait de set mixtape et tout. Et je voulais me faire juste mon kiff, réunir tous les gens que j'aime bien et tous les gens vraiment que je trouve qu'ils écrivent bien, tu vois. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai fait super vite. Les gens j'étais surpris, mais les gens étaient réactifs de fou. Genre, tu vois, j'ai commencé à faire les prods en décembre. En mai, on mixait tout le projet, était quasi mixé.
Ouais, pour un double disque avec 40 morceaux, effectivement, ça va, c'est vite.
Ouais, la folie. Je te jure, c'était la folie. Des fois, j'envoyais le morceau. Le lendemain, j'avais le mec qui me balançait deux couplets. Franchement, tout le monde m'a respecté de ouf et j'étais super heureux, tu vois.
Je te souhaite une vie rose et sucrée comme une barbe à papa. C'est nous la vraie chanson française, c'est pas taratata. On veut voir des Renois et des Arabes à table. Plus de Parmigiano sur mes penne arabiata.
On arrive justement maintenant au disque qui fait ton actualité, c'est-à-dire cet album d'Okis, Rêve d'un rouilleur.
Ouais.
Je parlais justement de plus jeunes artistes. Comment tu fais la rencontre d'Okis et qu'est-ce qui fait que vous vous mettez à travailler ensemble?
En fait, j'ai une pote qui a très bon goût en matière de musique. Et on se parle pas nécessairement souvent, même des fois pas pendant longtemps, mais je sais qu'elle aime bien certains trucs qui sont cool, tu vois. Donc, de temps en temps, il y a longtemps, on s'est envoyé des sons. Et là, j'avais pas de news depuis longtemps. Et genre, elle m'envoie juste le lien. Elle me dit, écoute, faut que t'écoutes ça. Je fais, ok, je fais confiance, j'écoute. Et j'écoute le EP, ok, 3 jours après qu'il soit sorti. Et j'écoute. Je suis putain, bâtard. Je fais, c'est d'où il sort? Tu sais, je me suis dit, j'écoute un morceau, je fais non, c'est trop. On le trouve où lui? Et je cherche sur Instagram, je cherche un peu partout, je trouve nulle part et tout. Je fais, mais c'est quoi ce truc? Et après, je regarde sur Twitter, j'ai trouvé sur Twitter, tu vois. Je lui envoie un message, je me suis rappelé, il était minuit. Et je fais, gros, j'ai écouté ton EP, t'es chaud. Et lui, il me dit, Mani et tout, ça fait trop plaisir. Je me butais à tes sons, j'ai rappé trop de fois sur les prods, Artigan, machin. Je fais, ok, mais t'es trop chaud, tu vois. Et on se met à discuter et tout. Et genre, au bout de 10 minutes, je lui dis, t'es chaud, je te produis. Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, c'est au coup de cœur, au feeling. Il me dit, mais non, t'es sérieux et tout. Je fais, gros, j'ai trop envie, tu vois.
Le plaisir de la musique dont tu parlais depuis tout à l'heure, ouais.
C'est ça. Et donc, de fil en aiguille, on s'est mis à discuter, etc. Et puis ensuite, c'est devenu fabuleux à partir de ce moment-là, tu vois.
Pourquoi c'est devenu fabuleux?
En fait, c'est devenu fabuleux parce que je lui ai envoyé des prods Et j'ai envoyé 2-3 prods, il m'a envoyé des maquettes. Et en vrai, c'était bien, mais moi, ça ne me suffisait pas. Vu ce que le gars est capable de faire et vu ce que je pense être capable de le faire, ça ne suffisait pas. Et je lui ai dit, tu sais quoi, passe à la maison. Et donc, il est passé à la maison en juillet, tu vois, il a pris son train et il est venu. Et je me suis dit, on va discuter et je veux voir où il veut aller et où je veux aller, tu vois. Et il vient à la maison, on se met à discuter 15 minutes. Et 15 minutes, il voulait faire la même chose que je voulais faire. Et donc, le mot qui est ressorti, c'est élégance. Tu vois, on voulait que ce soit élégant. Parce que lui, il est très, dans sa façon de rapper, il est très concret. Et justement, je trouvais qu'il a du goût. C'est quelqu'un, un jeune qui a vraiment du goût. Et je trouvais l'idée intéressante, justement, d'appuyer un côté un peu urbain et concret. Mmh. C'est-à-dire avec son œil, entre guillemets, de journaliste, de voir tout ce qui se passe.
Il y a quelque chose qui tient beaucoup de l'observation dans sa manière de rapper.
Ouais. Exactement. Et lui, il m'a dit, de toute façon, j'aime aussi être concret, j'aime pas trop l'abstrait, ça lui parle pas, tu vois. Et donc, au bout de 15 minutes, je fais, OK, vas-y, c'est parti. Et là, en fait, il est resté 4 jours et on a fait 13 morceaux. Il s'est passé une magie comme rarement. En fait, c'est comme si... Lui, c'était moi en plus jeune, un peu, tu vois ce que je veux dire. Et dans notre folie, dans notre façon de concevoir la musique, parce que ça, c'est super important, j'ai trouvé vraiment quelqu'un qui concevait la musique comme moi et qui mettait la création et, entre guillemets, le beau jeu au-dessus du reste, tu vois, et avec des convictions. Et nous, on s'est dit, les mots qu'on s'est dit, quand on s'est parlé 15 minutes, c'est « élégance » Denis Bergkamp, parce que c'est un fan de foot, tu vois,
ouais,
et moi aussi. Et on s'est dit élégance Denis Bergkamp. Et en fait, on a pensé, on a fait tout cet album, Rêve d'un rouillard, en le voulant élégant. Tu vois, vraiment, c'était le mot d'ordre, c'était l'élégance pour ce projet-là.
Il y a une teinte, je trouve, qui sort de cet album et qui est un peu, dis-moi si je me trompe, hein,
ouais,
qui est un peu inédite dans ce que tu allais chercher comme teinte musicale avant, c'est que je trouve, ouais, qu'il y a quelque chose de très blues sur cet album-là.
Ouais.
Dans des sonorités de guitare, de basse, même dans les rythmiques qui sont beaucoup plus lentes, qui font presque sudistes américaines, tu vois, de certains types de rap du sud des États-Unis. C'est ça, c'est en partie là-dessus que vous avez été chercher une forme d'élégance, justement, sur ce
ouais,
genre de choses.
Ouais, c'est ça. Blues et jazz, tu vois. Mm-hmm. Ben, en fait... tu vois, je discutais avec Okis et ce que je cherche dans la musique et ce qui me fascine en fait, c'est l'intemporalité.
Bien sûr,
tu
ouais,
vois. Et j'ai pas envie de réécouter ce qu'on a fait là dans 5-10 ans et en fait, c'est devenu nul. Donc, déjà, quand tu utilises des samples de vrais instruments, il y a plus de chances que ça devienne intemporel, entre guillemets, tu vois. Après, c'était au niveau des caisses claires que j'ai réfléchi. Et donc, je suis parti assez souvent sur des trucs assez secs et des rimshots. Mm-hmm. Et des rimshots, t'en entends depuis la nuit des temps et t'en entendras toujours. Et en fait, tu peux difficilement te planter avec ça. Et ça donnait un truc sec par rapport à ces flows que j'aimais beaucoup. Et en termes de rythmique, j'ai pas essayé de... J'ai changé les BPM, mais j'ai pas essayé d'être trop farfelu. Mm-hmm. Parce qu'en vrai, les samples, ils suffisaient bien à eux-mêmes, entre guillemets. Et donc, j'ai... Moi, dans la création, quand je composais, j'ai cherché vraiment un truc intemporel, tu vois, qui le but, c'est que ça vieillisse le mieux possible. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, on verra si on a réussi ou pas. Mais voilà, ouais, voilà comment s'est passée la création.
On peut rien faire ensemble, rien qu'à du sens, on préfère faire un cycle, on préfère faire un signe, un 6, un 9, c'est ainsi, on zone, on meurt avant ça, sous on siffle, on préfère rester faire un stère, on préfère faire un feat en 10 ans, un qui rance tes ans.
Est-ce qu'il y a un morceau en particulier sur cet album-là? Tu disais tout à l'heure à quel point c'était parfois difficile pour toi de, rétrospectivement, de souvenir tous les morceaux que t'as fait et de t'en citer en particulier. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un morceau sur cet album qui incarne justement à la fois cette élégance, cette recherche d'être un peu nouveau dans ta démarche musicale? Voilà. Est-ce qu'il y a un morceau qui essentialise un peu ça, tu vois, dans ce qu'on vient de décrire, justement? Est-ce que tu viens de décrire?
Ils sont quasi tous... Enfin, il y en a très peu que j'ai déjà proposé en termes
de couleurs et de BPM et enfin d'ambiance.
Tout à fait. Il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de neuf pour toi dans, musicalement
ouais.
dans cet album.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Roi des Banaveurs, bon, ça pourrait. Mais tu vois, même un rappeur de Lyon, eh ben, il a un côté boom bap, mais mm-hmm. même le charlet qui tourne, ça fait un peu break, etc.
Tout à fait.
Donc, ça fait plus boom bap strict avec des trucs assez secs et ah, droits.
Ouais. Il y a un côté breakbeat.
Ouais, c'est ça. Et,
qu'on retrouve, ouais.
Bon, après, j'en ai déjà utilisé.
T'en avais déjà fait,
mais,
oui.
Mais là, en termes vraiment d'atmosphère et tout, ça ressemble pas à ce que j'ai fait. Il y a peut-être le plus mélodieux, j'arrive à la fin, la petite mélodie mm-hmm. et tout. Mais non, en fait, moi, en vrai, avec O'Kiss, je voulais pas faire ce que j'ai déjà fait mm-hmm. plein de fois.
Bien sûr.
Et lui, peut-être qu'il aurait bien voulu, parce qu'il s'est dit, Many Days, c'est un peu ses souvenirs de jeunesse. Mm-hmm. Je peux peut-être faire ce que j'ai aimé. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il a compris, et moi aussi, on s'est mis d'accord. On a rapidement compris que c'était pas le but.
Bien sûr.
Et qu'il fallait proposer un truc. Je voulais un truc... plus grand que ça, entre guillemets, tu vois, et je voulais le mettre en valeur le plus possible. Et comme O'Kiss, il sait tout faire, tu mets n'importe quel BPM, n'importe quoi, chanter, il sait tout faire, et ben je voulais montrer au monde, entre guillemets, comment il est fort, tu vois. Je voulais que les gens comprennent ça. Et ils l'auraient pas compris sur du 90 BPM, sur 17 titres, ça aurait été chiant. Là, on a essayé chaque morceau de faire une vraie proposition musicale et que les gens qui écoutent, moi je veux en vrai que les gens qui écoutent l'album, ils se disent putain, demain je déménage à Lyon. C'est mortel. Je kiffe. Je connais toutes les rues avant. En fait, voilà ce qui sort, c'est ce qui sort du rap de Max, tu vois, c'est un côté très réel où je pense qu'il y a énormément de personnes qui peuvent se. Bah, qui peuvent se ressentir dans ce qu'il dit,
ouais,
mais à des âges... moi, j'ai fait écouter à des gens de 40 ans qui m'ont dit « mais il est trop chaud ». Des neugeux, ma fille, elle va avoir 16 ans, elle dit « non, mais il est trop chaud ». Tu vois, elle écoute des trucs plus mainstream, mais elle dit « putain, O'Kiss, il est trop chaud ». Et en fait, je trouve qu'il fait bien le pont, O'Kiss, entre ces deux générations, en termes de... C'est vraiment un kicker, tu vois, c'est un mec qui rime, et à côté, un jeune qui a un peu moins de base que nous, par l'ambiance, par l'atmosphère.
Par les références qu'il a aussi.
C'est ça, peut se faire embarquer. Et je trouve qu'il fait... C'est rare, tu vois, mais il fait bien le pont entre ces deux générations. Et tu vois, il y a des gens comme Aketo qui lui ont dit « t'es trop chaud ». Tu sais, il y a plein, entre guillemets, d'anciens qui lui ont dit « ouais, t'es chaud », tu vois. Et voilà, moi, mon but, c'était que c'est toujours que le plus de gens possible... kiffe son univers et ce qu'il a proposé, tu vois.
Frère, j'étais là pendant 3 jours, j'ai pas croisé la mexicaine. Même si je suis Lombière, ici t'as à midi, déjà fumé citer. Je peux pas mettre de putain de gants, ça m'arracherait les mains.
Moi, je trouve que musicalement, alors je vais te retourner le compliment que toi ouais. tu fais au Kiss, c'est-à-dire que je trouve que musicalement, en termes de production sur cet album,
ouais.
il y a quelque chose aussi qui fait le pont. Parce qu'il y a ces bases de ce rap dont tu viens de la fin des années 90 que tu as continué à porter parce que c'est la musique que tu aimes et que tu voulais
ouais.
Écouter et qu'en même temps dans ta manière de te renouveler et ouais. de prendre des codes plus actuels tu arrives à faire aussi le pont tu ouais. vois dans justement ce truc entre générations sur cet album là
bah ouais parce que le pont là il est facile à faire tu vois c'est pas une trop grande marche. Par contre, de faire...
Ah, je suis pas certain. Alors, je comprends ce que tu veux dire esthétiquement, mais je suis pas certain que tous les producteurs de ta génération ou de cette esthétique dont tu viens ont réussi, tu vois, à franchir cette marche-là.
C'est peut-être juste parce qu'ils l'ont peut-être pas voulu ou quoi.
Oui, oui peut-être. Mais le fait est que c'est peut-être okay. pas si évident, tu vois.
Peut-être. Mais non, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, c'était... Je l'ai fait naturel. En vrai, j'ai rien eu à forcer... Et souvent, c'est ce que je dis à Max. Ce projet-là, en fait, tout s'est passé trop bien. En fait, on n'a jamais eu d'accro du moment où ça a démarré à maintenant. Je ne parle pas d'accro au terme de relationnel, mais en fait, tout est...
C'était fluide.
Ouais, une fluidité, mais dans tout. Tout ce qu'on fait, c'est fluide, tu vois. Et il est repassé à la maison pour refaire des morceaux, tu vois. Et je m'étais posé la question, mais attends, peut-être il y a eu un miracle, en fait, pendant 4 jours. Il va venir et, en fait, pendant 3 jours, on va faire qu'un morceau.
Et il est revenu 4 ou 5 jours et on en a refait 12. C'est n'importe quoi. Non, mais tu vois, c'est...
C'est encore une belle rencontre. Tu disais, ouais, tu voilà. parlais de ça tout à l'heure, de rencontre.
En vrai, c'est une super rencontre. Moi, j'essaye de lui apporter ce que je peux lui apporter, tu vois. Et, mais c'est quelqu'un de curieux. Et c'est quelqu'un avec un goût que j'aime bien, enfin, que je considère qu'il a bon goût. Et donc, en fait, on se comprend naturellement parce qu'on veut faire la même chose. Et quand il est repassé à la maison, on s'envoie les sons. Il écoute ça, moi j'écoute ça, on écoute la même chose. Donc en fait, on veut faire la même chose. Sûr. Et il n'y a pas besoin de se forcer, de s'inventer des vies ou quoi. On est connecté. Juste pour le moment musical, c'est bon pour moi.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait, ouais.
Juste en fait, ce qui s'est passé, la deuxième fois qu'il est venu, il y a un pote saxophoniste qui est venu pour poser quelques trucs et tout. Et rien que ce moment, ces souvenirs... on a même fait des gifs de nos réactions parce qu'on s'est filmé un peu, mais tellement c'était... En fait, moi, ça me suffit à être content, tu vois. Après, ce que je me dis, tu vois, c'est qu'on crée pour soi et on partage pour les autres. Et moi, en termes de création, c'est un bonheur, tu sais, égoïste, tu vois. C'est une espèce de plaisir. Et après, tu partages parce que ça te fait plaisir. Mais je pourrais très bien... Enfin, des fois, je fais des prods sur mon MPC. Et elles sont bien. Et en vrai, j'éteins la MPC et puis, je m'en fous. Ouais. Parce que juste, j'ai passé un moment, c'est tout. Mmh. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, tu fais une activité, une course à pied. Et bah, tu cours, tu l'as fait pour toi, t'as pas besoin...
D'aller faire la compète.
Ouais, que toute la terre sache que t'as couru, tu vois. Bah, c'est un peu le... Même si c'est un côté... C'est un peu con parce que c'est un côté artistique, la musique. Mais tu vois ce que je veux dire. Mmh. C'est-à-dire, le plaisir, il est dans... Il est dans la création, tu vois. Et des fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, pendant un certain temps, je ne fais pas d'instru, je n'allume pas la MPC. Mais par contre, je vais entendre un son ou une prod où je me dis « le bâtard ». Et bah, tu sais quoi ? Des fois, je te jure, c'est vrai. Au bout d'une minute trente, j'éteins le morceau et en fait, j'allume ma MPC direct. Mmh. Et je me dis « ah, il faut que je produise ». Tu sais, en fait, c'est d'écouter des trucs de fou qui me donnent envie de produire.
T'as un exemple de ça récemment, justement, avec la bouteille d'auditeurs que t'as, tu vois, de trucs comme ça qui t'ont tarté?
Je me suis pris avec un peu de retard parce que je suis grave pas un mec qui écoute les projets dès qu'ils sortent, tu vois. Mais et Maison Suave d'Éloquence, je me suis fait tartiner la gueule. Surtout le premier morceau, Original Méchant. Mm-hmm.
Produit par Diesel Beats.
Ouais, c'est ça.
Travaille en poids de corps, push-up, calasthénique, ma tribu bénisse et l'élite, vise le zénith comme satellite. Big Daddy Kane sur du Coltrane, mafieux et jazzy. Je crée, je recycle. Plus facile détruire que construire. Plus facile mentir que trahir.
Là, j'ai regardé qui a produit ça. Et j'ai trouvé son Insta. Et j'ai envoyé un message. Et je lui ai dit, ta prod est trop chaude. Et je sais pas, en fait, des fois, du coup, je ressens le besoin des... Parce que je suis un auditeur. Mais le besoin d'auditeurs qui m'ont envoyé des messages. En me disant, putain... tu sais, des fois... Et en fait... Moi, je suis un kiffeur, et donc j'entends ça, la prod, et je me souviens, je l'ai écouté. En vrai, elle tournait en boucle dans ma voiture, le morceau. Trop classe, trop élégant, trop chouette.
Il y a ce côté jazzy qu'on peut retrouver dans certaines des prods, mais avec un truc plus moderne aussi, quoi. Voilà, c'est ça.
Et puis, en fait, je l'ai écouté tout après Rêve d'un rouilleur. C'était déjà fait et tout. Et en fait, c'était un peu dans l'esprit, tu vois. Bon, les drums, c'était pas tout à fait ce qu'on a proposé, l'émotion, c'était le même esprit.
Je comprends ce que tu veux dire.
Et donc, du coup, j'ai envoyé un message, je fais trop chaud. Il m'a dit merci. Et puis voilà, c'est tout. J'avais besoin, en fait, de lui témoigner que j'ai kiffé sa prod. Mmh. Mais genre, j'ai trop kiffé. Et donc, tu vois, j'entends une prod comme ça. Bah, je me dis, en fait, c'est même pas nécessairement pour t'allumer la MPC pour refaire la même chose. C'est juste pour produire, pour retâter le terrain, entre guillemets. Tu vois. C'est juste pour ça. Et je me souviens, j'allumais ma MPC. Et puis, je me suis remis en mode autiste et je crois que j'ai fait, 15 prods en deux jours, tu vois. Et après, des trucs plus américains avec, tu sais, drumless et tout, tu vois. Donc, ça demande beaucoup moins de temps qu'une prod programmée de ouf. Mm-hmm. Mais ouais, j'en ai fait 15 en deux jours. Et puis, genre, tu sais, ma pulsion, elle est partie et tout. Et puis, c'est bon. Après, je me suis recalmé. Tu vois, mais c'est vrai que j'ai ce besoin un peu pulsionnel, des fois, de faire de la musique. Tu vois, comme... un projet que tu n'as pas parlé, mais la symphonie que j'ai fait là. Mm-hmm. Et ben,
qui est donc un instrumental sorti fin d'année dernière.
Voilà, fin d'année dernière. Et c'est un seul morceau, en fait.
Mm. Oui, c'est ça.
Et donc, du coup, au début, je réfléchissais et je me suis dit, est-ce que je peux tenir un morceau 8 minutes ? Tu vois, juste comme ça. Mm. Et je fais, bon, bah, je vais essayer. Donc, j'ai pris mon S950, c'est un sampler Akai, tu vois. Et j'ai fait toute cette symphonie avec un S950 et Cubase. Et tu sais, c'est tout. Genre, tu vois, je mettais dans S950, je pitchais, je mets dans Cubase. Et dans Cubase, je fais rien. Tu sais, c'est juste, j'emboîte les trucs. Et puis, le premier jour, je fais 2 minutes 40. Ça m'a pris 9 heures. Et je fais, OK, bah, 3 de me réveiller demain, j'y retourne.
Ouais.
Je refais. Et là, genre, je monte à 3:30. En plus, il y a une transition à faire. Bah, je fais lourd, on continue. Et puis, j'ai fait ça pendant 9 jours. Et je suis arrivé à 14 minutes, tu vois, j'avais ma première partie de symphonie, et j'étais content. Et je me suis dit, j'ai laissé un peu de temps passer, et je dis, mais attends, mais j'ai trop envie de créer un instrument. Et donc, j'ai été à Monsieur Bricolage, j'ai acheté du contreplaqué, j'ai fait un espèce d'instrument chelou, une grosse boîte en bois, avec des cordes de guitare, et j'ai joué avec un archer, et j'ai passé dans le S950, et j'ai dépitché à moins 12, j'ai mis une grosse réverb, et j'ai fait l'interlude de ma symphonie, et t'as l'impression qu'il y a des gros bateaux qui se frottent dans un port, tu vois, un truc assez organique. Et après, je me suis dit, mais il faut une deuxième partie de cette symphonie. Et ben donc, j'ai refait ma symphonie. Et en tout, j'ai passé 400 heures pour faire cette symphonie. Et avec 90% de compos, avec des fois... De 10% de compos. Des fois, un pote guitariste qui m'a fait un solo façon air guitare, là. C'était trop marrant. Et des fois, ben, sur des passages de la symphonie, j'ai 35 pistes. De samples qui n'ont rien à voir, tu vois.
Ouais. Parce qu'en fait, c'est une démarche complètement opposée à ce que tu avais à fond, finalement, d'un seul coup, d'avoir une musique complètement enrichie par plein de choses, quoi.
Ouais, c'est ça. Et on m'a dit, depuis que je fais de la musique, depuis toujours, on m'a dit ça, que la musique, elle était... on voyait des images, tu vois, dans ma musique. Même du boom bap simple, l'émotion, j'arrive à attraper l'émotion des gens, tu vois. Et je voulais faire un truc comme si un peu je faisais une BO
d'origine. Ouais.
Ouais, c'est ça. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose de fabuleux à faire. J'ai pas eu l'occasion, mais...
Et bah, tu me tends une perche parfaite, pardon. Parce que justement, moi, en écoutant ce symphonie de Dr. Olson, je me suis dit, est-ce que un des trucs que t'aimerais faire à l'avenir, ce serait pas ça, ce serait de la musique à l'image, en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, j'aimerais beaucoup. Et là, je suis parti... Je suis parti sur autre chose d'un point de vue personnel. Tu vois, je fais des sons très jazz soul des années 70. Mm-hmm. Là, c'est mon truc, mais en full compo.
OK.
Et j'ai fait...
Donc, ça veut dire que tu joues toi-même des instruments ou que tu fais appel à des...
En fait, j'ai tout joué avec des instruments virtuels. Mm-hmm. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que je peux sonner bien avec des instruments virtuels ? Et je crois que ouais, j'ai trouvé là. Et donc, j'ai fait des essais jazz et tout. Et dont un qui est un interlude sur un prochain album avec Lucio Bukowski qui est fini et qu'on va sortir fin d'année ou début de l'année prochaine et qui est déjà terminé. Et là, ouais, je suis parti sur autre chose.
Et tu le disais, avec tout ça, avec le fait de suivre tes envies, de faire de la musique comme tu le sens pour capturer un mood du moment, là, tu nous le disais, par exemple, tu continues aussi à produire entièrement des disques avec des rappeurs, donc il y a Lucio par exemple.
Ouais, c'est ça. Donc
c'est toujours des envies que tu as aussi de continuer à faire ça.
Bah ouais, parce que en vrai, le plaisir avec Lucio, c'est que bon, on a fait La Noblesse de l'Échec, on a fait 3 petits points, mm-hmm. et on a fait Chanson. Et en vrai, c'est trop agréable de bosser avec lui.
Qui est en plus lui aussi un bousier de musique de film. D'ailleurs, il vient de sortir un livre
exactement,
sur le sujet.
Que j'ai reçu, et j'en remercie de me l'avoir envoyé. Non, c'est fabuleux. Et en vrai, j'ai carte blanche. Tu vois, il me dira jamais « retire ça, tu crois que peut-être ?» Parce que moi, je ne vais pas lui dire « tu crois que ce mot-là ?» En fait, on se fait tellement confiance tous les deux et ça roule tellement tout seul que c'est fabuleux. Tu vois, et puis même, je trouve qu'on a évolué. Tu vois, La Noblesse de l'Échec, c'était un truc bien particulier. Ensuite, on a fait 3 petits points qui est différent, mais c'était 2 EP à l'emporte-pièce. Et Chanson, je trouve qu'on a réussi à créer un univers, tu vois, qui était différent de tout le reste. Et là, vu que pile poil, ça c'est arrivé dans ma période un peu compo jazz, et ben dans le prochain album qui va sortir, et ben y a pas un sample.
Okay.
Il y a juste une voix de Marvin Gaye à un moment, je crois.
Okay.
Ou deux voix de chanteur, mais genre c'est tout. Et j'ai tout composé.
Ok.
Et donc je me suis dit, bah vas-y, feu. Tu vois, je voulais une couleur différente et il y a zéro sample. Et on pourrait croire que, je pense que les gens vont croire qu'il y a des samples, parce que c'est le but de les tourner de façon et que ça fasse pas trop moche. Mais ouais, c'est le premier truc avec un rappeur, en fait, où il n'y aura pas de... Bah, à part de voix, comme je t'ai dit, il n'y aura pas de sample.
Ce sera que de la composition de toi. On arrive à la fin de cet entretien.
Ouais.
Il y a une question que je pose toujours à mes invités, qui n'est pas la plus facile.
Dis-moi.
Si tu dois te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ton travail, qui ne sait pas qui tu es, en un morceau que tu as produit, ce serait lequel ?
Franchement, Yesterday, le morceau éponyme de mon album Yesterday. Moi, je ferais écouter ça.
Merci à toi, Mani, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans BPM.
Prie, ça tue.
Merci à vous d'avoir écouté BPM, le podcast de conversation avec des producteurs de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes et les prochains. Portez-vous bien, à bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.